Il est écart et c'est l'heure du rencard. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous êtes bien sur les ondes de Plume FM sur le 102.1. Nous avons le plaisir d'accueillir par téléphone Valérie Moisan, qui est la fondatrice du projet Récréatilou, un guide web dédié aux sorties et activités des enfants dans le Morbihan et le Finistère. Bonjour Valérie et bienvenue sur les ondes de Plume FM.
Merci et bonjour.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer le but de Récréatilou ? De quel constat êtes-vous parti pour la création donc, de ce guide web ?
Alors, Récréatilou, c'est une idée qui m'est venue lorsque j'étais en congé parental moi-même, avec mes trois petits loups justement à la maison. Et l'idée, c'était de leur trouver des occupations, des sorties. Et effectivement, je me suis rendu compte qu'il n'était pas toujours simple de trouver comment les occuper en dehors de la maison. Donc l'idée a germé petit à petit et effectivement, je me suis dit pourquoi pas trouver, fonder un site internet sur lequel toute cette offre de sorties et d'activités enfants serait centralisée. Voilà, ce serait bien pratique pour toutes les familles. Et donc, le projet est né de cette manière. Au départ, Récréatilou, c'était uniquement une page Facebook qui a permis un petit peu aussi de voir sur le département comment cette idée était accueillie et est-ce que les familles étaient partie prenante de ce projet. Et puis, de fil en aiguille, le site internet est venu et donc a été mis en ligne il y a maintenant pratiquement un mois. Il a été mis en ligne le 5 novembre dernier.
Pourquoi avez-vous appelé votre guide web Récréatilou ?
Alors, Récréatilou, le nom, nous l'avons cherché en famille. L'idée, c'était d'avoir quelque chose qui englobe ce monde de l'enfance. Alors, Récréa, parce que récréatif, et Tilou, un rappel des petits loups, les enfants. Donc, le nom, on l'a cherché en famille avec justement mes enfants. Et donc, voilà, c'était un petit peu le lien récréatif et petit loup. On est arrivé sur le mot Récréatilou.
Une très bonne idée. Est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs à quelle catégorie d'âge donc se destine ce guide ?
Alors le guide s'adresse aux enfants de 0 à 15 ans. L'idée c'était d'englober non seulement les enfants mais aussi les ados et de pouvoir arriver à proposer une offre de sortie et d'activité pour les enfants et les ados. Et puis ça s'adresse pas qu'aux enfants puisque c'est aussi les familles. Ce sont des activités qui sont soit destinés aux enfants, ça peut être des ateliers enfants ou des stages enfants, mais aussi l'idée c'est de proposer des loisirs à faire en famille le dimanche, le week-end, voilà, des sorties familiales, par exemple des festivals familiaux ou alors inviter les familles à aller voir un spectacle justement qui est un spectacle jeune public, mais qui est aussi un spectacle familial et qui plaît autant aux enfants qu'aux parents.
Donc plein de bons plans à aller voir. L'interface du site est très simple d'utilisation et donc chaque activité est proposée et commentée par vos soins. Est-ce que vos enfants et vous avez tout testé au niveau des activités ?
Alors on a testé beaucoup des activités qui sont référencées. C'est vrai que quand on connaît l'activité, c'est plus facile d'en parler. Du coup, les activités que nous avons testées en famille, on a effectivement rajouté des petits commentaires qui sont d'une part mes commentaires, ce que moi j'aime sur le site en question ou la structure en question, et ce que mes enfants ont aimé effectivement. Et donc l'idée, c'est de partager notre sentiment pour aussi donner envie aux familles d'aller faire cette activité ou d'aller visiter ce site. Mais on n'a pas tout testé, mais peut-être qu'à terme, on arrivera. L'idée, c'est de tester parce qu'on en parle mieux quand on connaît bien le site ou l'activité. Et puis, bon, à terme, effectivement, l'idée, pourquoi pas, sera de faire tester les familles aussi et pas seulement nous, donc de partager les bons plans avec les familles et de leur faire tester aussi les activités dans un deuxième temps.
Donc un réel témoignage de vos enfants également. D'ailleurs, combien d'activités au total sont proposées dans votre guide ?
Alors, honnêtement, je n'ai pas encore calculé. Il y en a beaucoup, notamment dans l'agenda, mais il y a encore beaucoup de place pour accueillir les professionnels qui proposent des sorties enfants. L'idée, c'est à terme, effectivement, d'arriver à être plus ou moins exhaustif. en essayant d'englober toutes les thématiques liées à l'enfant, que ce soit des ateliers, des parcs de loisirs, des stages, y compris des expositions. L'idée, c'est aussi de les faire sortir dans tous les domaines, de leur proposer des suggestions dans tous les domaines. Et puis, donc, d'englober toutes les thématiques. Alors, au-delà des sorties, l'idée, c'est aussi de leur proposer des idées pour fêter un anniversaire. Donc, par exemple, si une famille veut fêter un anniversaire à domicile, ou justement veut pas s'embêter à accueillir un groupe d'enfants à la maison, et ben où est-ce qu'on peut fêter son anniversaire avec des enfants? Je peux donner des exemples, mais il y a par exemple l'aquarium de Vannes qui propose des anniversaires d'enfants. Les gens connaissent l'aquarium, mais ne savent pas forcément qu'on peut faire ce genre de choses dans une structure. Donc l'idée, c'est vraiment d'englober toutes les thématiques et à terme d'arriver à être le plus exhaustif possible sur le monde de l'enfance, y compris sur le shopping d'ailleurs, puisque je propose aussi quelques idées shopping avec des entreprises ou des créateurs qui sont locaux, et donc ça permet aussi de les valoriser et de les faire connaître.
Donc un guide vraiment complet. Comment marche le partenariat avec les différents établissements?
Alors les établissements que je référence s'inscrivent sous une formule d'abonnement en fait, et puis donc moi je les présente et eux on souscrit un abonnement. Il y a aussi des partenariats qui sont mis en place sur des événements très ponctuels comme un festival jeune public, et donc les organisateurs proposent la mise à disposition de places donc que je fais gagner régulièrement sur le site pour des événements ou des spectacles ponctuels par exemple. Et puis, je peux aussi référencer tout ce qui est très, très local, comme les spectacles et les animations proposées par les écoles qui sont ouvertes au grand public, que ce soit les marchés de Noël, il y en a beaucoup en ce moment, ou voilà, un spectacle qui sert à financer l'école et qui est ouvert au grand public. Donc voilà, ce sont aussi des animations que je peux référencer sur le site.
Donc, vous avez même créé une interaction avec les enfants en proposant des jeux concours. Sous quelle forme sont-ils représentés?
Alors, pour l'instant, les jeux concours que j'ai mis en place, ce sont essentiellement des formulaires en fait qui sont complétés en ligne. Et puis moi, j'effectue un tirage au sort. Bon, le tirage au sort, ce sont mes enfants qui ont la chance de piocher dans le petit panier le nom des gagnants. L'idée étant de proposer justement des spectacles, des places de spectacles pour les familles. Et puis, de temps à autre, il y a également des cadeaux qui sont proposés, qui sont des professionnels que j'ai un petit peu repérés ou sélectionnés sur la toile et auxquels je demande effectivement s'ils veulent mettre en lot pour Récréatilou un cadeau. Et justement, il va y avoir dans les jours qui suivent un coffret de loisirs créatifs qui va être mis en jeu pour les enfants. Donc voilà un petit peu l'idée de leur donner des bons plans, des cadeaux et des places de spectacle qu'ils peuvent utiliser en famille.
Pour ne rater aucune information et donc des bons plans, vous avez mis en place une newsletter. Alors comment elle fonctionne?
Alors la newsletter, les internautes peuvent s'abonner sur le site directement et puis ils la recevront. Alors la première newsletter justement sera envoyée avant la mi-décembre avec l'idée de proposer sur cette newsletter effectivement de présenter quelques activités enfants et puis aussi de faire des passerelles puisque mon site est à la fois sur le Morbihan et sur le Finistère. Donc l'idée dans cette newsletter, c'est aussi de présenter par exemple une activité du Finistère dans la newsletter du Morbihan et inversement. Donc l'idée de faire des passerelles, sachant que les deux départements sont très proches et que voilà, sur un événement particulier, un immanquable dans le Finistère, les Morbihanais peuvent aussi faire le déplacement, ou inversement, les Finistériens peuvent venir sur le Morbihan parce qu'il y a une animation ou un festival ou une structure très intéressante à faire en famille. Et donc cette newsletter, donc les gens peuvent s'inscrire en permanence sur le site Récréatilou, et donc la première partira avant la mi-décembre.
Et pour les projets, est-ce que vous avez décidé d'agrandir votre zone géographique au niveau des activités ?
Alors, au niveau des activités, c'est ton projet, effectivement, pourquoi pas, d'englober toute la Bretagne. Donc, effectivement, je démarre sur le Morbihan et sur le Finistère. Et puis, pourquoi pas, à terme, effectivement, proposer l'ensemble de la région, voire plus, peut-être, dans quelques années.
On suivra ça de très près. Donc, si vous cherchez des bons plans, des sorties pour vos enfants, rendez-vous vite donc, sur le site Récréatilou au www.recreatilou.com. Pour retrouver toutes les informations, un seul site, plumefm.net. Alors, merci beaucoup Valérie pour vos réponses.
Merci à vous et à bientôt.
Merci et on se retrouve dans quelques instants pour vous parler de la 15e édition du Salon du roman populaire à Elvin. Mais juste avant, on marque une pause musicale avec les orgues de Barbac de l'album Pitocha.
Il y a une caravane tirée par un âne dans la forêt. Elle se promène au milieu des chênes, ne se perd jamais. Sauf quand l'âne ne sait plus où il va. Un petit bonhomme, grand comme trois pommes, les poches remplies. De petits bruits bizarres, demanda par hasard, voulez-vous d'un ami? D'un ami qui jongle avec les bruits. Mon Dieu, quelle aubaine, nous cherchions pour la semaine de nouveaux numéros. Ils se font si rares, parle-nous de ton art, illico presto. Je m'appelle Pitocha le marmot. Je suis un peu jongleur, je suis un peu dompteur, les bruits sont mes amis. Ils me reconnaissent lorsque je les caresse et rebondissent ainsi contre ce qui peut les faire résonner. Ainsi va l'histoire du petit gars bizarre, le dompteur de bruit. Dans tous les villages et par tous les âges, tout le monde applaudit. Pitocha est son grand numéro. Pitocha est son grand numéro.
Un beau jour que j'allais aller à l'école, une idée bizarre me suivait comme un pot de colle. Elle s'accrochait à moi, à mes chaussettes, comme un poisson pilote à sa roussette. Je lui dis va-t'en, j'ai pas le temps, il faut que je décolle. Mais elle ne m'écoutait pas, elle était un peu folle. Elle attendait de moi que je m'arrête pour grimper de mes pieds jusqu'à ma tête. Elle avait de petits bras et plein de poils pour gratter, et de très grands yeux tout ronds où l'on peut se regarder. Elle m'a tenté tant chatouillé le menton que je me suis cogné le front. C'est alors que plein d'idées poilues sont sorties de ma tête, faisant la ronde et chantant à tue-tête. Nous on veut pas aller à l'école, on préfère voyager, prendre notre envol. Se chauffait d'un tout autre bois. Stop la farandole dans un claquement de doigts. Puis elle dit, mes amis, écoutez-moi, je vous en prie, ouvrez les yeux, faites comme moi. Les idées poilues ont ouvert de grands yeux tout ronds, et vu qu'autour d'elle il y avait plus de 1000 façons de vivre et de parler chez les filles et les garçons de mon école, près de ma maison.
Vous êtes toujours sur les ondes de Plume FM au 102.1. On se retrouve dans cette deuxième partie du Rancard avec Florence David, donc responsable du Centre socioculturel d'Elvin, et Annie Kervich, la responsable de la médiathèque d'Elvin. Elles sont avec nous dans les studios de Plume FM pour nous parler du 15e salon du roman populaire. à Elvin, qui aura lieu les 6 et 7 décembre. Cette année, un thème plutôt original, une littérature appétissante, nourriture et terroir dans la littérature populaire. Tout d'abord, bonjour Florence et bonjour Annie, bienvenue bonjour. À Plume FM.
Merci, bonjour.
Merci, bonjour.
Alors, pourquoi ce thème cette année?
Bon, depuis 15 ans que le salon existe, c'est vrai que beaucoup de genres ont été abordés dans le salon du roman populaire, bien sûr. Et on avait envie justement de parler des nourritures, du terroir, de la cuisine, qui fait souvent, dans beaucoup de romans, bon, il y a des genres dans le roman populaire, bien sûr, la science-fiction, le policier, l'historique, mais très souvent, même si ce n'est pas un genre, c'est un thème qui est souvent abordé. Alors dans les contes, dans les romans, dans la poésie également. Dans les contes, on peut penser bien sûr aux frères Grimm, hein, qui sont emblèmes du genre. Hansel et Gretel, poussés par la gourmandise, voilà, ils sont piégés par une sorcière et puis voilà, mais ils arrivent quand même dans un monde merveilleux où tout est comestible. Alors, c'est formidable. On peut penser à Charlie et la chocolaterie, le roman de Roald Dahl, bien sûr. Des contes de la Bécasse, Maupassant. Toujours autour d'un repas, on déguste d'une Bécasse, mais alors là, c'est pas forcément la cuisine qui est mise en œuvre, mais le repas. Le repas, la littérature s'en est souvent servie, hein, pour planter un décor, une ambiance, des secrets de famille. Donc tout ça, ça se passe souvent autour d'un repas. Donc on voit bien que la cuisine, la nourriture plus exactement, est quand même très très impliquée dans le roman populaire. D'ailleurs, même dans le commissaire Maigret, le Simenon, on voit que le commissaire Maigret est un bon mangeur. Donc, Madame Maigret lui fait des petits plats quand il arrive dans certaines régions. Et voilà, il y avait aussi une connotation sociologique, hein, pour faire connaître. Et même, je crois que c'est Robert Courtine qui a écrit un cahier de recettes de Madame Maigret, des recettes de Madame Maigret qui n'a jamais existé, mais elle a son cahier de recettes. Donc c'est assez original. Et puis bien sûr, on peut parler aussi d'Émile Zola, Le ventre de Paris, qui est quand même, voilà, lui, la nourriture pour voir un petit peu le statut social des gens, les halles centrales de Paris, vu qu'un endroit de prospérité, de beauté, c'est de là que, voilà, le bien manger partait de là, quoi, à Paris. Donc la nourriture a toujours fait partie du roman populaire.
Donc première journée le samedi 6 décembre, il y aura des débats publics donc à la médiathèque municipale d'Elvin de 10h30 à midi et de 14h à 18h. Donc en présence du président de séance et organisateur des rencontres Jean-Luc Rivera et comme invité d'honneur Michel Barrière. Quel est donc le programme de cette journée?
Un programme alléchant, comme vous disiez. Donc Michèle Barrière, oui, qui nous a fait l'honneur et la gentillesse de venir au salon, elle est avant tout une historienne de la gastronomie. Et dans ses romans, elle se sert justement d'un filigrame autour de la nourriture pour écrire ses romans. Donc c'est toujours dans un milieu de la gastronomie. Voilà, donc Michèle Barrière, il y aura bien sûr Michel Beignet, qui là, c'est un incontournable du salon, hein, il est là tous les ans. Donc lui, il nous parlera plus du côté baffreur et goinfre du roman populaire, dans les romans populaires. Philippe Marlin, La cuisine de sang, donc c'est vrai que les vampires se nourrissent, mais différemment de nous, n'est-ce pas? Heureusement. Et puis Francis Saint-Martin, qui abordera lui un sujet, la nourriture dans la littérature enfantine. On parlait d'ailleurs d'Hansel et Gretel, je pense qu'il y reviendra, parce que la nourriture est souvent présente dans la littérature enfantine. Marc Maduro, lui, nous parlera du polar, bien sûr. Donc, il reviendra sans doute sur les recettes de Madame Maigret, ça, je suppose. Jacques Baudou. Alors, Jacques Baudou nous parlera, lui, de la cuisine des extraterrestres. Pareil, ils se nourrissent, mais de façon bien différente de nous. Donc, je pense qu'on va passer vraiment un très bon moment. Voilà, on dit qu'il faut venir parce que c'est vraiment un moment sympa où ces gens-là ont une passion, le roman populaire, ils savent la faire partager sans que ça soit pesant ni élitiste, hein, de façon très simple. Et toujours, on a des bonnes bosses de rire, hein, avec certains et puis, voilà, et puis d'autres, on apprend de toute façon beaucoup de choses et ça, c'est important.
Donc un moment de partage et d'échange.
Voilà, de partage et d'échange avec une petite pause café, manger des petits gâteaux. Voilà, la nourriture étant présente, nous allons essayer de bien manger ce week-end.
Comment arrivez-vous à trouver chaque année des invités de qualité?
Oui, ça, c'est pas le plus facile. Alors, on est beaucoup aidé, hein. Vous avez cité son nom et j'en suis contente parce que Jean-Luc Rivera, depuis le début, nous... nous dénichent, hein, des petites brochettes comme ça de gens qui ne viendraient pas forcément à Elvin pour le salon, mais grâce à lui, ils sont là, présents. Et c'est vrai qu'on a eu quand même des moments vraiment et des gens...
Chaque année, on a de grands noms finalement de la littérature qui viennent jusqu'à Elvin. Jean-Luc sait les faire venir aussi parce que c'est un salon convivial. Donc c'est souvent ce qui revient et du coup ça nous permet nous d'avoir cette grande chance d'accueillir des intervenants vraiment de grande qualité et extrêmement intéressants, quoi.
Pour la remise des prix du roman populaire donc de 2013, le samedi 6 à 18h45, donc à la médiathèque d'Elvin, on rappelle le thème de l'année dernière, donc, qui était des romans à la loupe, le détective privé dans la littérature.
C'est différent, là, les personnes. Et donc, on apprend d'ailleurs beaucoup de choses sur le métier de bourreau. À l'époque, il avait beaucoup de choses, beaucoup de boulot, on peut le dire. Et donc, cette petite jeune femme va arriver donc, à Paris. Et puis, elle nous fait... Donc, c'est un visage féminin qui voit la révolution avec un petit œil de provinciale. Elle va rencontrer Danton, Robespierre pendant des réunions publiques. Elle va être la modèle du peintre David. Donc, vraiment, un roman... On apprend des choses, mais il y a le côté romanesque qui est très bien rendu.
Et donc Olivier Dutailly sera présent sur le salon, dès le samedi à 18h45 pour recevoir son prix. Voilà. Et donc il sera présent également le lendemain au moment du salon du livre où on reçoit beaucoup d'auteurs en dédicace.
Comment est élu le prix du roman populaire ? Qui sont les jurys en fait ?
Alors les jurys c'est le personnel de la médiathèque et puis autrement des lecteurs qui ont voulu faire partie du comité parce que ce prix là c'est un prix authentique, c'est le prix des lecteurs, des lecteurs de médiathèque et je pense que ça en fait justement un prix très authentique, on pourrait le redire parce que ce sont des coups de cœur. Voilà, donc on lit à peu près 17 romans d'avril à octobre. Et puis on se réunit de temps en temps, on discute autour des livres, et puis on finit par choisir au mois d'octobre le lauréat, on vote.
D'accord, donc le salon maintenant, le dimanche donc 7 décembre, donc à la salle des fêtes de toujours à Elvin. Donc le matin de 10h à 12h30 et l'après-midi de 13h30 à 18h. Alors quelles sont les différentes activités que vous allez proposer donc, durant ce salon ?
Déjà, c'est une rencontre entre les auteurs et leurs lecteurs. C'est ça, c'est un moment qui est assez important et pour les lecteurs, justement, et pour les auteurs. Et puis, c'est toujours agréable d'acheter un livre et puis de se le faire dédicacer. Surtout un petit peu avant Noël aussi, ça peut donner des idées de cadeaux.
Voilà, des idées de cadeaux.
Voilà, donc bien évidemment, il y a des auteurs de romans pour adultes, mais il y a aussi la littérature jeunesse qui est très présente. D'ailleurs, les jeunes sont aussi très présents dans ce salon, puisqu'un concours de nouvelles est organisé pour les enfants des écoles et du collège cette année.
Du collège, il y avait un atelier d'écriture du collège Sainte-Marie qui a fait partie cette année du concours.
Voilà, donc les enfants ont travaillé en fait sur un souvenir gourmand. Voilà, c'est le thème qui leur a été donné et je crois qu'il y a eu des productions extrêmement intéressantes qui rappelleraient presque la Madeleine de Proust.
Presque la Madeleine de Proust,
qui nous a donné envie
c'est
de manger.
C'est leur Madeleine de Proust, hein. C'est... Non, c'est... on a eu des bons retours, ils ont été très contents de... Et puis bon, un souvenir gourmand, ils sont jeunes sans l'être encore, ils ont 10-11 ans, donc ils ont déjà un souvenir, je dirais, du palais, de quelque chose qu'ils ont aimé ou qu'ils n'ont pas aimé.
Combien de temps de préparation ont-ils eu pour préparer ce
On leur donne généralement le thème du salon, enfin le sujet de leur petite nouvelle autour de mi-octobre. Donc après, ils ont les vacances de la Toussaint, et puis avec la maîtresse, la professeure des écoles, après ils peuvent le truc, et on le récupère généralement mi-novembre, donc pour bien sûr après le soumettre au... Pareil, un jury.
Le même jury, en fait.
Non, c'est pas tout à fait. Mais il y a d'autres personnes qui rentrent dans le comité de lecture des nouvelles. Et puis, voilà, nous, on essaye de le lire pas comme un prof, mais voilà, comme si on était auteur et qu'on avait à découvrir. Et on a retrouvé des petites Madeleines de Proust, comme tu dis, qui étaient fort sympathiques. Les enfants ont bien joué le jeu, c'est vrai.
Et là, les résultats sont gardés secrets jusqu'à dimanche, justement, jusqu'à dimanche 14h15.
Voilà. C'est ça. Nous verrons qui a gagné le prix. Alors, je vais faire un petit clin d'œil à l'affiche également qui a été réalisée par la Gym Tag, qui pourrait être également aussi dédicacée par l'artiste. Mmh. C'est la première année que vous travaillez avec cet artiste ?
Oh là, pas du tout, non. Ça doit être la sixième année, il me semble.
Cinquième, peut-être.
Cinquième ou sixième année que l'on travaille avec lui, qui est donc illustrateur au départ. Donc évidemment, ça nous donne chaque année une affiche qui est originale et extrêmement soignée, dont on est assez fier. Une affiche qui sort vraiment de l'ordinaire.
Qui est donc, très original, c'est vrai.
Voilà, et là, il s'est inspiré des gravures d'époque, en fait, sur le thème de la nourriture, justement. Donc, quand on regarde de près, on aperçoit plein de petits détails qui sont assez drôles, finalement.
Voilà, dans l'affiche de Jim, c'est toujours comme ça.
Il y a toujours des détails, ainsi que dans le programme. Mmh. Il faut toujours regarder les petites choses. Et souvent, on découvre des perles, en fait. Mmh.
C'est vrai que chaque année, il faut associer donc l'affiche forcément au thème. Et c'est en plus pour le thème qui est très original cette année, c'est pas forcément facile.
Non, c'est vrai qu'aborder la cuisine dans le roman polaire. Et pourtant, je vous dis, c'est vraiment, c'est souvent comment. On parle souvent de cuisine dans le roman.
Et là, en fait, il s'est inspiré de l'almanach Grimaud, donc. 1803-1812, il est allé chercher très très loin cette année, mais on est
heureux que l'alien, il a dû le rajouter, je suppose.
Alors, il s'est inspiré librement, donc effectivement, il a rajouté un alien.
Il s'est fait plaisir.
Voilà, il a rajouté un requin-ci qui n'était pas tout à fait...
qui n'est certainement pas dans le bouquin original.
Voilà.
Alors, vous avez entendu, donc rendez-vous les 6 et 7 décembre à Ilvin pour la 15e édition du roman populaire. Est-ce que vous voulez rajouter une dernière information ?
Oui, peut-être remercier tous les bénévoles, hein, le centre social, parce que la municipalité d'Elvin, bien sûr, qui nous fait toujours, qui nous suit dans l'aventure. Le centre social avec qui on est vraiment liés sur ce projet. Et puis remercier aussi les commerçants, des artisans qui nous aident, qui sont partenaires financiers du salon. Et puis West France, France Bleu, bien sûr, France Plume FM, voilà, tous nos partenaires. Je crois qu'il faut quand même souligner que le Conseil Général, bien entendu.
Voilà, c'est important.
C'est important qu'on soit aidé, et puis autrement, tout ça n'existerait pas forcément.
Et puis donc, rendez-vous dimanche donc, pour rencontrer des auteurs, mais on n'a pas que des auteurs aussi. Il y a aussi quelques artisans d'art et de bouche qui sont présents sur le salon.
Voilà.
Pour associer au thème.
Forcément. Voilà, pour associer au thème.
Bien sûr.
Donc, si vous voulez vous régaler, allez, Ilvin, ce week-end.
Voilà.
Combien de temps vous mettez à peu près à préparer ce salon ?
Un an.
Généralement, le soir, la clôture du salon, le thème est décidé.
Voilà.
Voilà, pour donner à Jean-Luc le temps quand même de nous concocter un programme intéressant, parce que bien sûr, les gens, on les déplace pas comme ça, il faut aussi les prévenir un peu à l'avance. Et puis voilà, qu'il y pense, que Jim pense un peu à l'affiche qu'il va faire. Et puis voilà, non, il faut un peu de temps quand même.
Vous avez déjà des idées pour l'année prochaine ?
Oh, on en aura dimanche soir.
On
venez
en aura
nous voir
dimanche soir,
on vous dira
et puis
peut-être.
Le roman populaire se décline sous tellement de formes que, bien sûr, c'est pas...
Enfin, on a déjà abordé beaucoup de sujets, hein, ouais. Donc l'amour, le roman du KPDP, la bande dessinée, le polar, la médecine dans le roman populaire.
Le train
aussi, en effet, les marins.
Les marins, ouais. Puis en le cinquième anniversaire du salon, on avait pris un auteur, par contre, là, un auteur, ouais. Jules Verne. Donc, oui,
voilà. Donc, on a vu Fantomas.
On avait vu Fantomas pour les 100 ans de...
Voilà, non, c'est... Les vampires,
exactement. Ah oui, les vampires, c'était une
très très belle année. Très... Ouais. Donc on a déjà décliné beaucoup de thèmes, mais bon, je pense qu'il en reste beaucoup.
Il en reste beaucoup.
Donc je répète, les 6 et 7 décembre à Ilvin, donc pour la 15e édition du roman populaire. L'émission L'heure du rencard est terminée pour aujourd'hui. Elle est rediffusée ce soir à 18h15 ou disponible donc dès demain en podcast. C'était Julien à la technique. Je remercie Florence et Annie d'être déplacées au studio. Je vous dis à demain 12h15 pour la prochaine. En ce qui me concerne, je vous souhaite une très belle journée sur nos ondes.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.